Une vie sans croix est une vie sans amour. Cette formule, que l'on doit à un écrivain spirituel du XVIIe siècle, Jean de Bernières, pourrait résumer, me semble-t-il, ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. Une vie sans croix est une vie sans amour. C'est tout d'abord la découverte faite par Pierre et les autres disciples. Voilà maintenant quelque temps que ces hommes ont fait le choix de suivre Jésus en réponse à son appel « Venez à ma suite ». Pour cela, ils ont quitté leur famille, la sécurité matérielle que leur procurait un travail stable, la réputation liée à une vie sociale normale. Ils sont devenus des célibataires sillonnant les routes de Palestine sans activité professionnelle reconnue, en marge de la société juive de leur temps. D'une certaine manière, ils ont déjà rempli la première condition posée par Jésus comme un préalable pour marcher à sa suite. Ils ont renoncé à eux-mêmes, car ils ont vite saisi que Jésus en avait fait de même auparavant. Leurs yeux sont fixés sur lui, qui marche en avant d'eux. Et voilà qu'à l'image d'un professeur interrogeant ses élèves, deux semaines après la rentrée, Jésus s'arrête, chemin faisant, pour faire une petite mise au point et s'assurer que les disciples ont bien compris le sens de ce qu'ils vivent ensemble. À la question posée par Jésus, « Pour vous, qui suis-je ?», Pierre apporte une réponse qu'on devine aussi spontanée qu'enthousiaste, « Tu es le Christ !» Bravo Pierre, 10 sur 10. Mais la satisfaction du bon élève est de courte durée. Premièrement, Jésus interdit aux disciples de révéler son identité messianique. Deuxièmement, il annonce la suite du voyage et elle se révèle un peu déroutante. Souffrance, rejet, mort et résurrection. Voilà deux choses qui ne cadrent pas vraiment avec l'idée que Pierre et les autres se font du Messie. Pour rappel, le Messie annoncé par les Écritures et attendu par les Juifs doit être un descendant de David qui viendra manifester le salut à la fin des temps. Pour les disciples, il tient donc davantage du roi de gloire, évoqué dans le psaume 23-24, que du serviteur souffrant, dont le livre d'Isaïe rapporte les paroles entendues dans la première lecture de ce jour. Même si Jésus ne parle pas de la croix, le choc est rude pour les disciples. Leurs conceptions du Christ sont complètement chamboulées. Jésus le Christ est en route. Ses disciples marchent derrière lui. Jésus le Christ ne peut pas être mis à mort à cause du rejet des siens, même si sa résurrection est aussi déjà entrevue. Pourquoi ses disciples alors prendraient-ils leur croix ? Il ne semble pas prêt, Pierre du moins, à remplir la deuxième condition posée par Jésus comme un préalable pour marcher à sa suite. La semonce de Jésus peut sembler rude. « Passe derrière moi, Satan !» Mais Jésus remet Pierre à sa juste place, derrière lui, donc à sa suite. Plutôt que de jouer le jeu de l'adversaire, semble dire Jésus à Pierre, en t'opposant à la volonté divine, « Marche à ma suite, continue de fixer ton regard sur moi et tu comprendras. Une vie sans croix est une vie sans amour. » Et vous, comment vous situez-vous par rapport à Jésus? Qui est-il pour vous? En fonction de ce que vous pourriez répondre, êtes-vous prêt à le suivre à ses conditions à lui? Vous me direz, pour nous, la chose est plus facile que pour les disciples parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. Certes, mais avant la résurrection, il y a la croix. On ne peut pas l'escamoter. Avant le beau Christ, souverain prêtre en gloire, représenté ici, il y a le Christ souffrant, le juste outragé et attaqué. Prenons garde d'aller trop vite et d'avoir des pensées humaines réconfortantes. Le chemin du disciple n'est pas différent du chemin du maître, et notre chemin passe nécessairement par la croix. Écoutons le cardinal Henri de Lubac. Je cite. tant vaut la douleur et tant vaut la joie. Ce sont deux corrélatifs et plus que corrélatifs. La douleur est l'envers de cette unique étoffe dont l'endroit est ou sera la joie. Mais il faut d'abord accepter l'envers qui s'offre seul, sans vouloir, chose impossible, retourner l'étoffe, sans connaître encore l'endroit. Sous les espèces de la douleur, la substance de la joie est là déjà. C'est ce qui apparaîtra un jour. Fin de citation. Ça y est, me rétorquerez-vous peut-être. Vous vous dévoilez, mon père. Vous êtes un doloriste. Comprenons-nous bien. En régime chrétien, il est impossible de sanctifier quelque forme de souffrance que ce soit. La souffrance en elle-même est absurde et insupportable. Il faut la combattre. Et c'est bien le sens que donne saint Jacques aux œuvres manifestant la foi chrétienne authentique. Atténuer, si ce n'est mettre fin à la souffrance d'autrui. En revanche, au cœur de la souffrance, l'amour peut s'affirmer comme une présence formidable qui terrasse le mal. L'amour que l'on reçoit, à l'instar de l'amour de Dieu pour son serviteur injustement persécuté, l'amour que l'on donne, à l'image de celui de Jésus sur la croix. C'est dans cette voie-là que nous invite à marcher le Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et pour perdre sa vie, nul n'est besoin de mourir littéralement. Il est juste question de renoncer à toute forme d'égoïsme et d'accueillir chaque circonstance de la vie comme une occasion de faire place à l'amour. Parce qu'il a appris à devenir fils de l'homme, jusque dans l'abaissement extrême, pour que nous apprenions à devenir fils de Dieu, Jésus nous demande de lui faire confiance, fondamentalement confiance, et de faire un pas supplémentaire dans la foi, sans que ce pas nous fasse sauter à pieds joints par-dessus la croix. Parce qu'une vie sans croix est une vie sans amour, ce pas, nous avons à le faire à sa suite, derrière lui, sans crainte. Comme le dit le psalmiste, il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Amen.